Europe 1.
Bonjour Alexis Corbière.
Bonjour.
Député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Les gauches, finalement, seraient-elles réconciliables, Alexis Corbière? On apprend à l'instant par le Parti Socialiste qu'il souscrit aux propositions de La France Insoumise. Julien Bayou, Alban Le Prince le disait à l'instant, déclare sur France 2 qu'un accord est en vue avec La France Insoumise. Donc je vous pose la question, la réconciliation, c'est maintenant?
On a bien travaillé, le travail n'est pas fini. Il y a des équipes, et je tiens à les remercier, qui travaillent d'arrache-pied depuis notamment dimanche dernier. On est vendredi, donc tout ça prend le temps qu'il faut, mais c'est une discussion sérieuse. Et effectivement, j'ai là le document et j'imagine qu'il va circuler maintenant. C'est 4 pages. Le Parti Socialiste a répondu au point qui, pour nous, était important pour engager une discussion politique. Nous, on veut pas
les
des choses.
Les points de programme.
Les points de programme. Ouais. On parle programme, là. On parle programme, on parle idée, on parle projet pour le pays, on parle comment on change la vie concrètement pour les gens qui nous parlent.
On parlera circonscription
la
après.
La cuisine, la tambouille. Ouais. Je dirais, c'est ça qui sature tout le monde. Évidemment, tout ça redécompte. Parce qu'il s'agit à partir de créer une dynamique politique dans laquelle chacune des forces est respectée, se retrouve. Et nous prenons l'engagement, évidemment, nous l'avons dit, que chaque force aura un groupe parlementaire. Et nous voulons par ailleurs créer une architecture un peu nouvelle avec un intergroupe, si nous sommes majoritaires, dans lequel ces groupes puissent discuter. Et même un nouveau cadre politique, on appelait ça une fédération, confédération, mais dans le cadre d'une... ce que nous appelons l'union populaire, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des lieux de débat politique et de régulation politique qui ne sont pas que des rapports de force brutaux tels que c'était souvent conçu par le passé.
Alors, c'est la gauche plurielle
Non, justement. Justement,
la
gauche plurielle, souvent, c'était en gros, il y avait un truc hégémonique qui était le PS, qui satellisait les gens, qui leur donnait quelques miettes, et puis c'était un parti tout seul qui décidait. Là, ce n'est pas le cas. On veut discuter politique. Écoutez quand même, sans rentrer, enfin, on peut rentrer d'ailleurs dans le détail, le document du Parti Socialiste, qui dit qu'il est d'accord avec nous pour avancer vers la retraite à 60 ans. C'est formidable pour les gens. Le Parti Socialiste qui nous dit, ensemble, on peut faire un SMIC à 1 400 €. Bravo. Le fait qu'il s'engage avec nous à travailler au rétablissement de l'ISF, une fiscalité plus juste, à aller vers une 6e République, à être vis-à-vis de l'Union Européenne, parfois sur certains traités, en capacité de non-application. Nous, on appelle ça la désobéissance. Oui. Tout ça montre qu'il y a une volonté politique d'avancer.
Je signale quand même un bémol sur l'Europe. Dans le communiqué, il est écrit, nous refuserons de mettre en danger la construction européenne ou de laisser s'installer une fracture entre la France et l'UE. Autrement dit, le principe de désobéissance que vous prenez, il est quand même conditionnel à lire la déclaration.
Mais le même, si vous voulez, on peut en faire une lecture qui est quand même que, effectivement, et à ne pas respecter certaines règles, c'est à montrer bien qu'il y aura des points qui nous sembleront s'il faut désobéir pour créer, effectivement, au sein de cette Union européenne, de nouveaux rapports de force. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que nous ne sommes pas la souveraineté nationale, la souveraineté populaire qui s'exprime politiquement ne peut pas être remise en cause par des règles au niveau de l'Union européenne. Donc tout ça, c'est une tension, ça s'appelle faire de la politique, évidemment, et c'est assez intéressant, c'est assez nouveau, et je me félicite que, quelque part, c'est grâce aux résultats sortis des urnes, à notre volonté politique, aussi, que tout ça puisse avoir lieu, ce qui semblait extrêmement difficile. Alors évidemment, ça ouvre des débats. Je suis pas en train de dire que c'est... D'ailleurs, je suis pas en train de dire non plus que tout ça est totalement achevé. C'est une discussion sérieuse, faut vérifier des points, mais moi, je trouve que c'est noble que d'abord, on commence par le débat politique entre nous. Je veux dire, les gens avec qui nous discutons en PS sont des gens sérieux, qui ont pris cette discussion au sérieux. J'ai observé d'ailleurs que ça a occasionné certaines discussions chez eux.
Entendu François Hollande, Stéphane Le Foll à ce micro hier dire, ça n'est pas une option finalement.
Oui, non mais Hollande, quand il parle de Mélenchon, j'ai l'impression que son slogan c'est « Mon ennemi, c'est la finesse ». Quoi. Franchement, s'il est caricatural toujours, à l'entendre d'ailleurs... Tout le monde a tort, sauf lui. Enfin bon, je crois qu'il y a un processus au PS de déhollandisation, c'est leur affaire. Et je comprends que des gens qui ont la responsabilité de ce parti, voyant d'ailleurs ce qui est sorti des urnes, ne voulant pas accabler seulement Madame Hidalgo, si elle fait ce score, ça n'est pas sa faute. C'est aussi le bilan, sans doute, de ce qu'a fait François Hollande. Ils ont envie de rentrer dans un nouveau cycle. Nouvelle époque, nouveau programme, j'ai envie de dire, nouvelle stratégie, c'est normal. Oui. Ou alors, on est uniquement dans la répétition de figures du passé qui amène quoi? À ce que des gens du PS le quittent pour rejoindre Emmanuel Macron. Mais il y a des gens qui veulent rester socialistes, au Parti Socialiste.
Alexis Corbière, au-delà de s'entendre avec vous, les différentes formations avec qui vous discutez, est-ce que vous les croyez capables de s'entendre entre elles? Je cite par exemple le NPA qui déclare être très hostile à l'idée d'un accord avec le PS. À ce stade, le NPA, vous n'avez pas signé avec eux.
Non, mais on discute avec tout le monde. Moi, je suis pour une alliance qui va du NPA au Parti Socialiste.
Mais qui va se passer quand, par exemple, vont se poser des questions très concrètes sur le nucléaire, par exemple?
Mais c'est pourquoi...
Vous voulez en sortir, mais les communistes et les socialistes,
mais
non.
Mais c'est pourquoi on a une discussion qui a lieu et actuellement, qui a un document, j'invite à le lire, notamment que nos partenaires socialistes viennent d'émettre, qui est un texte sérieux, qui avance sur des points. C'est aussi le cas d'Europe Écologie des Verts. On discute aussi avec les communistes. Ceux qui trouveront ça insurmontable ne viendront pas. C'est pas le sujet. C'est quoi la discussion? La discussion, c'est que suite à cette élection présidentielle, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a trois blocs de taille peu ou prou égale. Certes, Emmanuel Macron est arrivé en premier.
Vraiment, égal, vous pensez
27%, 24%, 21,9%.
Alors, d'accord. Tout de même, quand on regarde les projections de sièges, je sais ce que vous allez me dire. Les projections de sièges, vous allez me dire, c'est mouvant, ça ne tient pas
bien
compte
sûr,
des dynamiques.
Voilà. Donc je dis c'est mouvant et ça ne tient pas compte des dynamiques.
Mais au stade actuel des choses, on voit que le bloc de gauche, ce serait une centaine de sièges, peu ou prou la même chose.
Je ne sais pas de quoi vous le tenez, cet élément, parce que vous n'en savez rien. Parce que qu'est-ce que c'est que je suis en train de vous dire? C'est que en vérité, ce qui s'est passé au premier tour, c'est ces trois blocs. La question, c'est est-ce que nous maintenons la force qui s'est rassemblée autour de la candidature Jean-Luc Mélenchon? Il le faut. Je dis à nos électeurs, entendez l'échéance devant nous, 12 et 19 juin, il y a la possibilité que toute une série de questions qui n'ont pas été tranchées par cette élection présidentielle, parce que j'affirme à ce micro que M. Macron est essentiellement élu au second tour dans un rejet de Mme Le Pen. Il n'y a pas d'adhésion majoritaire. Bien sûr, il y a un bloc qui existe, mais qui est minoritaire dans le pays. Il n'y a pas d'adhésion majoritaire sur le programme de M. Macron. La majorité de ce pays ne souhaite pas poursuivre la retraite jusqu'à 65 ans. La majorité de ce pays ne souhaite pas la continuité en vérité des politiques libérales de M. Macron. Mais aussi, les gens ne souhaitent pas la victoire de l'extrême droite. Alors, comment on règle cette affaire? On a, devant nous, une échéance démocratique pour rediscuter de ça. Nous, on dit, si on maintient le bloc autour de Jean-Luc Mélenchon, si on arrive à créer les conditions de parler aussi à ces 12 millions d'abstentionnistes, je ne les oublie pas, ce quatrième quart, en quelque sorte, civique, qui ne doit pas rester un océan englouti, mais qui peut être une force politique si elle vient se mêler aux affaires.
Mais
12 à 13 millions de gens, c'est quand même significatif, sur 48 millions d'électeurs. Ouais. Et enfin, pour terminer, si on élargit, nous, parce qu'on est en train de faire, en créant les conditions dans quelque chose d'intelligent, politiquement fort, avec les forces dont on vient d'évoquer, alors on peut aller à cette élection en voulant gagner, en voulant créer un bloc majoritaire à l'Assemblée nationale, une majorité populaire, et nous le disons parce que c'est lui qui a incarné nos idées, avec Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, pour mettre en œuvre évidemment notre programme. C'est motivant.
Vous parlez d'intelligence politique, permettez-moi de rebondir, mais est-ce que c'est intelligent de dire d'Emmanuel Macron qu'il est le bâtard de François Hollande? Ce sont les mots de François Ruffin hier au micro de France Inter.
C'est une formulation pour dire qu'il est le fils, en quelque sorte, de François Hollande. C'est politique. Ou alors, qu'est-ce qu'il fallait dire? Que Emmanuel Macron, ou du moins que François Hollande est le père spirituel d'Emmanuel Macron. Bon, ça sous-entendait qu'il y a du spirituel chez François Hollande, alors qu'il n'y en a pas toujours. Mais tout ça, c'est une formule choc. C'est pas, François Ruffin, il a le verbe haut. C'est quoi le problème que vous voyez là-dedans? C'est quand même vrai que c'est François Hollande qui a mis le pied à l'étrier d'Emmanuel Macron. C'est quand même vrai que sans François Hollande, Emmanuel Macron n'existerait pas. Cet homme a quand même été secrétaire général adjoint de l'Élysée sous François Hollande. Il était un des éléments de la politique de François Hollande. Puis il a été nommé ministre par François Hollande. Et manque de chance pour François Hollande, il l'a trahi par la suite. C'est leur affaire. Il y a un lien entre les deux. C'est pas deux mondes différents. Voilà, c'est la continuité du gouvernement de François Hollande. C'est ce qui amène d'ailleurs toutes les discussions qu'on voit au sein du Parti Socialiste, c'est que des gens, et je les comprends, disent nous on veut mettre tout ça à distance désormais. Nouvelle époque, nouveau programme. On discute, et on discute sérieusement parce que tout ça c'est de la tambouille. Ce qui intéresse c'est que dans ce pays il y a des gens qui ont basculé sous le seuil de pauvreté, c'est qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à boucler la totalité de leur trimestre pour partir à la retraite. C'est eux qui m'intéressent. Quelque part, j'en ai rien à fiche de ce vieux monde qui a été sanctionné quelque part. Alors je sais bien que de temps en temps, on ressort la naphtaline, quelques vieux acteurs de tout ça pour dire « Ah, c'était mieux à mon époque, ils n'ont rien compris ». Et hélas, M. Hollande joue ce rôle de l'oiseau de mauvais augure. Mais quelque part, c'est le passé. Voilà, avançons.
Alors, avançons. Justement, vous dites tout à l'heure, vous dites à l'instant, Alexis Corbière, qu'une majorité de Français ont voté pour Emmanuel Macron par rejet de Marine Le Pen, mais qu'il n'y a pas d'adhésion autour de lui. Je vous cite les chiffres du baromètre IFOP fiduciaire.
Je tiens à dire que ce n'est pas une majorité de Français, c'est seulement 38% des électeurs inscrits. Il n'y a pas de majorité. Quand nous disons qu'il est mal élu, je ne dis pas qu'il n'est pas président de la République, mais je dis que c'est objectif. D'ailleurs, Philippe Val, tout à l'heure, au-delà de toute une série de méchancetés et de mensonges, ça n'est pas vrai que Emmanuel Macron est un des mieux élus ou je ne sais trop quoi. Il est objectivement, dans l'histoire de la Ve République, chiffre à l'appui, par rapport au nombre d'électeurs inscrits, un des plus mal élus.
Le deuxième après Georges Pompidou en termes
alors, de... Alors attendez, j'arrête, parce que vous dites Georges Pompidou, à l'époque où il y avait deux candidats de droite, Alain Poher et Georges Pompidou, et toute la gauche et la moitié des électeurs avaient boycotté ce second tour. Donc, Il est le plus mal élu.
Ah, voilà, c'est objectif.
Baromètre IFOP fiduciaire, chiffre de ce matin. Question posée. Que souhaitez-vous à l'issue des législatives ? 67%, donc deux électeurs sur trois, enfin deux personnes interrogées sur trois, veulent une majorité d'opposition à l'Assemblée et imposer une cohabitation. Très bien. Mais à la question, souhaitez-vous Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre ? 35% seulement de oui, 65% de non, donc 44% de non, pas du tout.
D'accord. Donc 35% de oui, et je pense que l'on compare à tous les autres noms, c'est sans doute celui qui arrive en tête. Donc c'est plutôt bon signe. Alors, la campagne n'a même pas commencé.
Il n'y a pas d'autres testés.
D'accord. Ben justement. Ben alors donc tout ça ne sert à rien. Parce que sans aucun doute que celui qui va être nommé Premier ministre dans quelques heures, selon le fait du prince par Emmanuel Macron, il fait à peu près zéro dans cette étude d'opinion. De vous à moi, tout ça, ce qu'il y a de choquant, c'est que vous êtes journaliste et vous attendez qui le prince va désigner comme Premier ministre. C'est-à-dire que pour l'instant, les Français ne savent même pas qui va diriger ce gouvernement. Moi, je leur dis, tout ça n'est pas sain.
Mais c'est pas le jeu des institutions, Alexis Corbière.
Les institutions, c'est la monarchie présidentielle.
Parce que vous réinterprétez la Ve République en disant « élisez-moi Premier ministre ». Ça n'est pas le fonctionnement de la Ve République.
Pourquoi ? Alors, à quoi servent les élections législatives ? On n'a qu'à les annuler.
À quoi servent d'élire le président de la République au suffrage universel si on élit le Premier ministre ?
On n'a qu'à les annuler. Précisément, le jeu de l'élection présidentielle crée les conditions d'un second tour, d'où est exclu la moitié des électeurs. Vous l'avez peut-être remarqué, la moitié du corps électoral s'est fait éliminer à ce second tour. Il y a quelque chose de plus démocratique si on est attaché à la République telle que moi je l'entends.
Vous évidemment, voulez un régime parlementaire.
Je pense que c'est plus démocratique que la monarchie présidentielle.
Les institutions actuelles.
Par ailleurs, c'est pas un scoop.
Vous voulez la sixième République de fait.
Exactement. Je pense que les Français la veulent d'ailleurs. Je pense que les Français veulent un régime dans lequel c'est pas le prince ou le monarque qui décide tout seul. Donc l'Assemblée nationale a beaucoup de défauts, mais la vie parlementaire au moins c'est 577 députés dans lequel on peut ne pas tout ramener à la volonté d'un seul, mais avoir quelque chose de plus démocratique. Il y a les élections qui viennent. Nous, on est franc du collier. On ne dissimule rien. On dit votez pour nos députés qui vont être dans la force que nous sommes en train de construire. Et celui qui va porter notre programme et qui sera éventuellement le chef du gouvernement, si vous le décidez, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors qu'Emmanuel Macron s'apprête à faire comme avec Castex ou Édouard Philippe, nommer un Premier ministre que personne ne connaît. Ça, d'un point de vue démocratique, avouez que c'est choquant.
Alexis Corbière, selon le Figaro, la France Insoumise s'apprête à investir Tahar Bouaf, le journaliste militant dans la circonscription de Vénissieux. Attendez, il a été condamné en septembre dernier à 1500 euros d'amende pour injure publique à raison de l'origine, pour avoir traité Linda Kebab, la syndicaliste policière, d'arabe de service. Comment vous pouvez le soutenir alors que vous avez soutenu en décembre la résolution du communiste Roussel pour rendre inéligible les coupables d'incitation à la haine raciale. Ça visait Éric Zemmour.
Ça n'a rien à voir. Déjà, arrêtez le délit de faciès politique envers certaines personnes. C'est insupportable. Il fait appel, donc il n'est pas condamné. Déjà, ça n'a rien à voir. Soyez précis, soyez journaliste. Deuxièmement, c'est pas parce que toute une série d'officines, à nouveau, mène une attaque contre un militant, dont c'est aujourd'hui, je crois, l'anniversaire, il a 25 ans. 25 ans! Et vous êtes, vous, journaliste d'Europe 1, en train de me parler de ça? Qu'est-ce qu'a fait?
Je vous parle de quelqu'un qui défilait avec, dans une manifestation, la tête de Marine Le Pen.
C'est insupportable. Dans ce pays, vous n'avez jamais vu de caricature ni quoi que ce soit. Monsieur Val, qui était là encore, je vais le citer, Charlie. On est Charlie ou pas? C'est-à-dire qu'on a le droit de faire des caricatures ou pas? Évidemment que c'est métaphorique. Évidemment que c'est symbolique. Vous voyez le ridicule de la situation. Vous prenez un jeune homme et vous l'accablez de toute une série de choses. Alors, tout le monde a le droit de caricaturer, sauf un. Et comme par hasard, il s'appelle Monsieur Bouaf.
Sera-t-il investi?
Oui, sera peut-être candidat.
Vous sous-entendez quoi?
Non, je ne sous-entends pas. J'affirme. J'affirme que vous vous acharnez, vous et ceux qui mènent ce type de campagne, contre des militants qui ont toujours le même profil.
Des militants de la jeunesse
qui sont notamment d'origine maghrébine, qui ont tous les torts. Ils n'ont pas le droit, eux, de caricaturer. Ils n'ont pas le droit d'avoir des propos parfois mal calibrés. Tout le monde a le droit d'avoir des propos abusifs, mais il y en a un qui n'a pas le droit, c'est quand il est militant issu des quartiers. Je trouve cela insupportable. Et je dis à toutes ces hyènes qui sont... Je vous ai dit oui, je ne vais pas le répéter quatre fois. Et à toutes les petites hyènes qui sont sorties, que rentrez dans la niche. Vous ne nous ferez pas baisser les yeux. Et vos campagnes de calomnie minables, je m'adresse à vous, et à travers vous, ceux qui les mènent, ne nous font pas peur. On n'en a rien à fiche. Monsieur Bouaf n'est pas raciste. Voilà, je vous le dis trois fois.
Donc c'est métaphorique, la petite hyène, c'est ça?
De quoi?
Vous me traitez de petite hyène?
Non, je dis les petites hyènes notamment qui mènent campagne sur les réseaux sociaux. Pas vous, monsieur. Pas vous. Mais je tiens à vous dire.
Pardon.
Attendez, écoutez-moi. Non, mais je veux être clair.
Je ne me permettrai pas de vous parler comme ça.
J'ai bien compris. Mais moi, je veux être franc avec vous. Ce n'est pas à vous que je parle. Je dis que Tahar Bouaf est victime aussi d'attaques, d'insultes, de menaces menant en permanence sur les réseaux. Ce que je vous dis, cher monsieur, avec tout le respect que je vous dois, c'est ne soyez pas le relais de cela. Et j'espère. Je vous présente à vous des excuses.
Je vous mets ça.
Écoutez-moi, Dimitri. Je vous présente à vous des excuses parce que ce n'est pas vous que je vise.
Je dis que
Tahar Bouaf est depuis trois ans victime de campagne absurde. Et derrière lui, c'est un profil politique que l'on vise toujours.
Au-delà de son cas,
il y a 577 candidats.
Alexis Corbière,
il a 25 piges.
Y a-t-il pas de contradiction
Laquelle
entre le fait en décembre de faire campagne sur le thème de vouloir interdire quelqu'un qui a été condamné pour un jeu racial.
Il n'a pas été condamné pour un jeu racial.
De faire campagne
la
sur ce thème-là.
La personne dont nous parlons n'est pas condamnée pour un jeu racial. Elle n'est pas condamnée. Elle c'est un appel.
Si la condamnation d'accord est confirmée.
Mais vous osez comparer M. Zemmour qui était visé à l'époque et les propos qu'il a tenus. Alors je sais bien peut-être qu'ici il a micro ouvert. Et le fait que M. Bouaf ait
qu'est-ce
eu des propos
ça signifie,
un peu
ça
vifs.
Il a micro ouvert partout, dans tous les
non,
médias.
Non, il a particulièrement micro ouvert sur certaines chaînes. M. Zemmour, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et ici, ça ne choque personne quand il s'exprime. D'accord ? Vous osez, je vais vous dire, je vous le dis franc du collier, M. Bouaf est un militant antiraciste. Maintenant, il a eu des propos qui étaient d'ailleurs les mêmes propos que Cabu, sinon j'en reviens toujours à Charlie, avait eu contre un militant du Front National à l'époque. À ce moment-là, on n'avait rien trouvé à redire. Moi, j'approuve pas ce genre de propos. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Non, mais ce que je suis en train de vous décrire avec verve, c'est qu'on a un programme pour le pays. On veut aujourd'hui la retraite à 60 ans, augmentation du SMIC, défense des services publics, des mesures écologiques, et on va chercher, trifouiller dans les 577 candidats sur ce qu'a fait telle ou telle personne il y a 2 ou 3 ans, que par ailleurs j'approuve pas en soi, je m'en fiche, mais je vous dis prenons de la hauteur par rapport à ce débat. Et là où je prends la défense de Monsieur Bouaf, c'est que là par contre, depuis 3 ans, il est victime sur les réseaux sociaux d'attaques incessantes, d'insultes, d'injures, alors que ce monsieur, ben vous en doutez.
Il reste de son côté.
Pardon, hein. Non, mais d'accord, mais enfin, voilà. Je veux dire, je vous ai jamais vu prendre sa défense quand il est menacé de mort. Ça, c'est normal. Et pour terminer, avec tous les défauts qui sont les siens, c'est quand même celui qui a permis de déclencher l'affaire Benalla, que personne, aucun journaliste n'avait pu être là. C'est celui qui, notamment, a dénoncé des victimes des violences policières contre des gens.
Merci,
c'est
Alexis
quelque
Corbière.
Part, à sa façon, il fait du boulot. Donc, allons à l'essentiel et s'il vous plaît, arrêtons ces genres de petites histoires qui ne m'intéressent pas et qui rabaissent la vie politique, selon moi.
Merci, Alexis Corbière.
Merci.
D'être venu au micro
d'Europe 1. J'espère que chacun qui m'a écouté a été un peu réveillé par mon propos, mais la bonne
sans
nouvelle,
doute.
C'est que l'Alliance, cette union populaire, progresse, s'élargit, et pour le pays, c'est une bonne chose.
Merci à vous.